Pendant un instant, elle s'arrête. Et elle regarde en contrebas. Non, il n'est pas redescendu. Soudain, elle en est certaine. Il a dû continuer à monter. Même si c'est absurde. Mais tout est absurde dans sa fuite en pleine nuit. Alors pourquoi il aurait tout à coup un comportement raisonnable ou logique, alors que rien ne l'a été dans ce qu'il a fait cette nuit? Oui, il faut monter encore. Elle reprend. Une veine, peut-être de marbre, de granit, et elle décide de suivre cette nervure, et lentement, calmement, elle incite Sidious à monter sur les flancs de la montagne, à suivre le minuscule sentier noir qui dessine comme une saignée étroite, profonde, accrochée sur les versants très raides. Parfois, des pans entiers de roches se sont effondrés, laissant une paroi striée de lignes nettes, longues estafilades à même la pierre qui se terminent en éboulis, en amas de caillasses, comme des billes, des cailloux, des galets, des pierres grosses comme des poings. Mais elle ne fait pas attention aux éboulements. On avance. Elle regarde devant, lentement. Avec une précaution infinie, soudain, parce que de là où elle est assise, Sibyl peut voir, très au-dessous des étriers, bon Dieu, oui, des centaines de mètres, un flanc abrupt, la forêt comme une tache touffue de vert et de noir, et puis la montagne elle-même, et la vallée encore, la plaine avec les yourtes grandes comme des mouches. Elle a peur, Sibyl. Elle se dit qu'il faut avancer sans réfléchir, mais elle ne peut pas s'en empêcher, pas empêcher son cerveau de filer à toute allure et d'imaginer le pire. Qu'est-ce qui a pu lui arriver, Samuel? Qu'est-ce qui a pu t'arriver? Pourquoi tu as fui comme ça? Ce n'est quand même pas simplement parce que je t'ai dit de la fermer à cause des trucs débiles que tu peux déblatérer sur les Arabes et les musulmans. Et pendant qu'elle ressasse, qu'elle refait le chemin, qu'elle essaie de comprendre, d'oublier aussi les images de Starman, son œil bleu, les coups de sabot dans le vide et son gémissement qui lui déchire les entrailles et la mémoire maintenant, et les loups, leurs menaces, comment ils l'ont accompagnée jusqu'à ce que Sidious et elle soient suffisamment loin pour qu'ils puissent descendre et se laisser glisser dans le trou où les attendait, frémissant de vie encore, leur proie. Pendant ce temps, donc, la saignée s'est ouverte, le front de la montagne s'est adouci, et enfin tout le paysage s'ouvre, et c'est comme s'il retombait de l'autre côté, un plan très large, recouvert de verdure, une vallée qui s'étend sous le ciel. Un léger affaissement, un renflement, des moraines de loin en loin, et, au fond, là-bas, le plan d'herbe qui s'effondre pour retomber sur l'autre versant de la montagne. Est-ce qu'il peut être de l'autre côté? Les sabots de Sidious, mais surtout le souffle épuisé du cheval, son hennissement de joie parce qu'il sait qu'il va pouvoir se reposer, brouter, qu'il n'aura plus à marcher comme ça en équilibre sur les roches. Mais bien sûr aussi la voix de Sibyl qui lui commande de continuer. Il n'y a personne, que le vide, l'espace qui s'ouvre et le ciel au-dessus d'elle. Elle n'a pas remarqué que le ciel est noir ce matin. Elle pense peut-être que c'est un lambeau de nuit qui s'attarde, mais non. Des nuages s'amoncellent au-dessus des glaciers et des cimes. Ils recouvrent les crêtes, les effranges, les noix. Sibyl descend de son cheval, et elle se précipite pour regarder en contrebas, de l'autre côté. Elle n'a plus la force d'appeler, plus la force de rien. Elle regarde dans le vide, figée, stupéfaite, le visage défait, ravagé, les yeux emplis de larmes qu'elle ne prend pas la peine de sécher. Elle ne bouge plus et laisse traîner sur sa bouche le prénom de son fils. Elle dit « Mon amour ». Mais aucun mot ne sort d'entre ses lèvres. « Mon amour, mon fils ». Samuel, tout s'étouffe et s'éteint sur le bord de ses lèvres. Et quand alors les premières gouttes de pluie tombent, lourdes, épaisses, elles éclatent comme des billes d'eau sans que Sibyl réagisse. D'abord des ploc, ploc, des gouttes éparses, quelques-unes, mais elle s'en fiche. Elle ne s'en aperçoit peut-être pas. Elle pense à Samuel. Elle commence à se dire qu'il ne veut plus la voir. Elle imagine qu'il la regarderait en face. Et qu'en levant la voix, il dirait que son père avait raison, quand il répétait qu'elle n'était qu'une folle incapable de rien, et quand il se vantait de l'avoir larguée, bien faite partir, de la laisser dans sa merde, cette pauvre dépressive toujours en train de sombrer,